Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Kianoji. Bonjour Fernand, très élégant monsieur.
Franchement. J'essaie de me mettre à la hauteur,
monsieur. T'as bien raison. Bon, on va déjà commencer parce que la semaine dernière, t'avais annoncé les nouvelles cartes Ares pour la reprise. Donc, ouais. Novembre-décembre, des petits bangers de title fight à chaque fois. Est-ce qu'on a d'autres annonces depuis ou tu gardes ça secret pour le moment?
On va les garder au chaud. Les petites annonces, mais je vous dis, on a mis nos paquets. Sur les deux fight cards, que ce soit celle du 17 novembre et le 15 décembre, on a mis le paquet. On sait qu'il y a eu voilà, un peu d'espacement, mais c'est ceux qui... Enfin, ça va être spectaculaire. Enfin, je c'est pas pour vendre la fight card ou quoi. Si j'étais un mec qui aime le MMA, je ne loupe pas ces fight cards-là. La billetterie va être ouverte bientôt. Sincèrement, c'est de la bombe. Je vois les fight cards et je me dis, bon, c'est du lourd, tu vois. À chaque fois, c'est des gros challenges. Il n'y a pas de combat où il y a de la complaisance, où tu ne sais pas qui va affronter qui. C'est extrêmement challengé. Tu vois, donc c'est bien.
Et est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on voit le cas d'Axel Sola, là, qui va faire pour son deuxième combat, le combat pour le titre, est-ce qu'aujourd'hui, il y a, comment, un chemin rêvé pour aller à la ceinture ou pas? Ice Fighting, où c'est vraiment, ça dépend si le mec est impressionnant, ça dépend aussi des rankings. Qu'est-ce qui peut faire qu'un jeune peut aller rapidement à la ceinture?
C'est juste qu'il soit comment dire, qu'il soit décisif dans sa manière de combat. Je pense que c'est un ensemble, mais ce qui revient rapidement, le point commun entre tous les jeunes qui sont allés tôt à la ceinture, c'est des jeunes qui étaient ultra dominants. Soit ultra finisseur, soit ultra dominant. Un jeune comme Youssouf Binaté, s'il passe le combat qu'il va faire, ça devient compliqué de lui dire non, finalement, pour qu'il aille challenger la ceinture, parce que il se retrouve à un moment donné, il fait quatre victoires au premier round, c'est compliqué de lui dire. Enfin, voilà, il avance et là on lui met des vrais noms. Mehdi Saadi, c'est un vrai nom. C'est quasi mission impossible. Et s'il surmonte ça, bah t'en mets pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui nous intéresse. Tu prends un jeune comme Baisanko, mine de rien, très dominant sur chacun de ses combats. Et là on est à l'heure de la vérité. Ou au bout d'un moment où on a un jeune qui est aussi dans une expédition dans la manière de combattre, beaucoup plus au sol, ça va être difficile.
C'est du 50-50 pour toi?
Oui, c'est du 50-50. Comment te dire? C'est très compliqué. C'est du 50-50 qui peut aller à 100% si l'autre impose dans son domaine. Baki peut s'imposer en pied-point. Il pourrait éviter que le combat aille au sol ou en tout cas jeter et ne pas aller au sol. Si Félix Kliamer le tire au sol et qu'il teste le sol de Baki et on voit si Baki est insubmersible au sol, si jamais ça passe, il pourrait complètement dominer au sol s'il se met à attaquer soumission sur soumission. C'est pour ça que je t'ai dit que je trouve que le combat est équilibré, mais il peut être d'un coup très dominant d'un côté ou de l'autre.
Et est-ce que tu peux nous présenter un peu plus Félix Klinkhammer? Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, même si bon, faut pas trop y prêter attention, ceux qui ne le connaissent pas pouvaient se dire bon, là, il y a encore un faire-valoir pour Baki, alors que, comme tu as dit, c'est un 50-50. Je rappelle que Klinkhammer était pressenti, enfin, avait signé pour les Contender Series et finalement, il n'y a pas été. Et c'est vraiment un gros, gros client.
Comment le présenter? Tout ce que je peux te dire, c'est que aujourd'hui, quand le Contender Series appelle quelqu'un, c'est qu'on pense que dans sa catégorie, en tout cas, il est quelqu'un. Il pourrait être promu dans la grosse ligue UFC. Et au-delà de ça, il a un sol ultra agressif. Un peu un sol... c'est un finisseur, quoi. C'est un peu Abdul. C'est le mec qui va chercher tout de suite à essayer de placer une soumission très rapidement, sans perdre de sans perdre trop de temps sur le grand Nippon, même si Abdul, lui, il est capable de faire, enfin, il aime faire les deux, le grand Nippon et la soumission. Félix, il est frais, il est jeune, il a une carrière tout, et puis il est réputé pour dormir dans une caravane, dans une roulotte, ce qui, je comprends pourquoi la tutosphère a décidé d'en faire un problème. C'est que tout le monde parle de Félix comme étant le gars qui n'a pas de maison et qui a la caravane qui est en face de
Ah
la
non,
salle de sport.
mais justement sur Twitter, hein, les gens mettent ça en avant comme quelque chose de positif. Et moi aussi, je trouve que c'est positif dans le sens le mec sacrifie tout pour le MMA. Et je pense que toi, imaginons, si t'avais un mec au Factory qui littéralement vit à 50 mètres de la salle, tu te dirais, bon, s'il y a un gars sur lequel faut que je mette un petit peu de temps, c'est bien ce mec-là, tu vois.
Oui, je l'ai eu. J'ai eu Veronica Macedo qui dormait dans une caravane
Ok.
avec son papa en face du MMA Factory
Wow.
pendant des mois. Et du coup, les week-ends, quand il n'y avait pas cours au Factory, elle prenait la route, elle allait en Belgique faire quelques cours. Elle allait au Luxembourg et tout en roulotte et puis elle revenait se garer devant la salle et puis voilà. En tout cas, Félix est un client. Qui va permettre de répondre à pas mal de questions. Le gros problème d'un lutteur, c'est en général, qu'est-ce qui devient à partir du moment où il a amené l'adversaire au sol? Et c'est là où ça devient intéressant. Je pense que Baki a de l'avance sur la boxe. Je suis persuadé que Baki a de l'avance sur la lutte. Je pense qu'il y a de l'avance du côté de Félix Kinyama au sol. Et que c'est un sol qui est un sol equalizer. Parce qu'à tout moment, il peut changer la donne. Et c'est cette menace-là qui est intéressante à voir, c'est ça qui m'excite sur ce combat. On prend le cas de, on demandait pourquoi, alors un gars comme Mustapha est là, il devient mine de rien vétéran. Mustapha sur une moyenne ligue comme Arès, il devient un vétéran. Celui qui est plutôt nouveau, c'est Abou qui arrive et c'est juste quand on a un mec qui, ces jeunes-là sont des game changers finalement, des gars comme comment il s'appelle? Virgil Hogan. Ce sont des game changers parce que quand ces mecs arrivent et tout, la fédération ne permet pas qu'un mec comme Virgil Hogan puisse affronter un mec comme Henrique. Et puis parce que Henrique a déjà une vingtaine de combats et puis Virgil Hogan a 5 combats. Et puis grâce à à l'efficacité de ces jeunes, ont réussi à déplacer le curseur et on décide que ces jeunes, s'ils ont passé 4 combats, ils peuvent affronter des mecs qui ont une cinquantaine de combats et donc, du coup, ce sont des game changers. C'est des gens qui arrivent et c'est des jeunes qui arrivent et qui vont littéralement nous pousser à croire en eux et miser sur eux. Et c'est exactement ça, l'ADN de Arès. Arès, notre but, c'est de fabriquer nos propres stars, de prendre ces jeunes qui sont méconnus au départ, de faire qu'ils aillent accrocher un public qui va les découvrir, qui va grandir avec eux, qui va apprendre avec eux. Et à partir de ce moment, ils ont une fanbase très solide et tout, et ils ont des personnes qui sont assez régulières sur Arès. Ça pousse à la ceinture, ça pousse au titre, ça pousse à quelque chose de concret, tu vois. Au bout d'un moment, tu peux pas, aussi fort que tu sois, tu t'appelles Shikemoto, tu es très fort, tu as fait les Contender Series, tu as été consenti pour l'UFC et tout, mais très transparent, je pense que Enrique Shikimoto aujourd'hui sur la liste d'attente de l'UFC. Et donc, malgré ça, tu as un petit jeune comme Virgil Hogan qui dit, moi, je le prends. Je me sens prêt à relever le défi. Et bah,
Mais ils sont
c'est
faciles à faire d'ailleurs ces combats-là ou pas? Je veux dire, s'il y avait, est-ce que le titre ça a été déterminant pour réussir à faire ces combats-là?
ça dépend des cas.
Ok. Par
Dans le
exemple.
Bah, dans le cas de Abou et Mustapha Edda, c'était important.
Ok.
Dans le cas de Enrique Shikimoto, il veut combattre. Il veut juste combattre.
Ah ouais.
Ouais. Il veut combattre. Il s'est dit, pas, moi je veux combattre. Je veux être actif et je veux faire avancer ma carrière. Donc, si c'est pour le titre, tant mieux, c'est un bonus, mais sinon, je veux combattre.
Ok, ouais, non, parce que j'aurais cru que ouais, ça aurait pu être un petit peu compliqué pour certains combats au regard des ambitions que peuvent avoir les combattants. Et donc là, Arès, donc on sait maintenant que ça revient novembre, décembre. Est-ce que t'as des infos pour le mois de janvier? Parce que j'avais vu passer l'info de la nouvelle salle, tac tac tac, c'est Adidas Arena, je crois, qui va être utilisée pour les Jeux Olympiques. À partir de quand est-ce que le déménagement sera effectif? Est-ce qu'on a un petit peu des infos sur le début d'année 2024 aussi?
Je préfère ne pas les donner maintenant parce qu'on va, on va en parler bientôt. Mais en tout cas, sur le mois de mars, dès janvier d'abord, dès janvier déjà, je pense qu'on commence en janvier. Ensuite, on a une fois le dôme, une fois le LSC, mais le reste du temps, on est à l'Adidas, normalement.
Ok. LSC, c'est la scène musique? Non, non,
Le
non.
Valois.
Le Valois? Ah d'accord. Ok. Bon bah très bien. All good. Et dernier point pour AS, parce que là, donc on en parlera. Ne vous inquiétez pas la semaine prochaine du PFL Paris. Il y a des moves ou pas avec AS?
Des moves.
Des... non mais dans le sens des petites choses qui vont se matérialiser quoi. Soit un cross, enfin. Ares versus PFL ou champion contre champion ou je sais pas moi, enfin tu vois des passerelles un peu officielles entre les deux.
On prépare des choses.
Ok.
On prépare des choses. On prépare des choses avec le PFL, tranquillement, mais ça n'a rien à voir avec une coproduction.
D'accord, ok.
On a beaucoup de chantiers ensemble, c'est tout.
D'accord, ok monsieur. Non, parce que le fait qu'il y ait eu le passage de Jordan Zebo et de Pépi, on aurait pu se dire que ça y est, il allait avoir une passerelle qui allait être officialisée.
C'est un truc un peu différent qu'on va faire.
D'accord. Ok. Bon, bah, on en saura un peu plus
Le moment,
prochainement.
voilà, le moment venu, tu seras le premier au courant, t'inquiète.
Aïe, 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 aïe. Des choses se trament en coulisses. Bien. Fernand, on va revenir aux actualités du moment, actualité internationale, puisque l'UFC, ce qui se passe, plus que jamais, j'ai envie de dire, c'est que rien n'est sûr. À chaque fois, maintenant, Fernand préfère prendre des pincettes quand on fait les pronostics. On ne sait pas, on ne sait pas, et j'ai l'impression que soit que le niveau aujourd'hui est tel que finalement tout le monde a sa chance, ou soit que le sport est en perpétuelle évolution. Mais je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, la stat qui est sûre, c'est que depuis 2021, le seul champion qui a toujours sa ceinture, c'est Volkanovski. Enfin, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie.
Parce que on est sur un sport qui est un sport hybride et qui est un sport à grosse instabilité. Ça va très vite. En gros, les sports sont classés sur une espèce de continent où il y a des sports très stables d'un côté, des sports très instables d'un autre côté. On a déjà parlé, je vous ai souvent donné l'exemple de l'haltérophilie versus au canoë-kayak, l'haltérophilie qui est très stable avec une charge unique, inchangée durant l'exercice où tu vas lever 100 kilos, il y aura pas de vent favorable, il y aura rien qui va modifier la charge, donc c'est assez stable. Et puis d'un autre côté, tu as le canoë-kayak en eau vive que tu ne contrôles pas, tu suis les éléments de la nature et tu essaies de guider comme tu peux pour arriver avec une meilleure trajectoire. Bah, le MMA est un sport très instable. Parce qu'il y a plusieurs manières de gagner, parce qu'il y a plusieurs facteurs de performance. Le modèle de performance en MMA est très complexe. Et du coup, ça donne beaucoup d'éléments qui font que du jour au lendemain, un changement, une nouvelle technique, une nouvelle ambiance, une nouvelle manière de s'entraîner, c'est très sensible. Tout bouge, tout bouge très rapidement. Comment dire? On a très rapidement un gars comme Israel Adesanya qui était intouchable, qui devient subitement touchable. Très rapidement, par un changement de style, par un petit détail. Parce que c'est très instable. Tu es sur la boxe anglaise, il y a rarement sur la boxe anglaise, tu vas sortir une révolution. Tu vas sortir un truc revenu de nulle part. Tu es sur le judo, rarement tu vas. Oui, de temps en temps, tu as des éclats où on te dit, il y a un mec qui est un premier div qui a battu Teddy Riner vite fait, mais Teddy Riner, il dure sur 10 ans, il est solide, il est indétrônable. Le MMA, c'est complexe. Les facteurs de performance sont très sensibles, les curseurs sont très sensibles et une petite tendance, un petit élément, tu es Du jour au lendemain, on a les types qui arrivent, les fronts qui sont pointants sur le corps et ça change tout. La donne change. Du jour au lendemain, il y a des obliques qui arrivent, le truc s'inverse. Du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui trouve une bonne technique pour contrer les lutteurs, ça change la donne. Et on se met à mettre le même compte tout le temps et ça change tout.
En ce moment, toi, il y a une révolution que tu as observée? Enfin, ou un petit changement, tu te fais oula, ça peut être une technique intéressante ou un truc de 2023 là, en particulier.
Rien de spécial. J'ai vu le calf kick qui a beaucoup marché à un moment donné, qui a fait des gros dégâts et qui a marché. Ensuite, ce que je constate, c'est que ça peut, les facteurs de performance, comme je le disais, ne sont pas que physiques. Ça peut être psychologique, ça peut être des types endogènes, ça peut être l'environnement, ça peut être le public, ça peut être le fait qu'on sait que systématiquement, dès qu'on arrive dans une situation, dans une zone hostile, parce qu'on est sur le territoire anglais, quasiment toute la falcade anglaise gagne à quelques exceptions. Quand on arrive en France, quasiment tous les Français gagnent à quelques exceptions. Quand on arrive, je commence à penser que si on posait des études très sérieuses, on aurait peut-être un corollaire entre le fait de gagner et le fait d'être à domicile. Parce que peut-être que à domicile, on est plus motivé, à domicile, on a plus de support, etc. Et donc, la tendance, c'est peut-être celle de. Il y a eu la tendance des short notice, déjà, par exemple, où on s'était rendu compte que en short notice, c'est ceux qui venaient à la dernière minute qui statistiquement gagnaient le combat. D'habitude, on considérait que le short notice, c'est celui qui arrivait en dernier sur la fight card qui gagnait. Mais on a compris que non, ce n'était pas ça. Des fois, c'était celui qui arrivait nouvellement, qui venait changer la donne parce qu'il arrivait, il était motivé, il n'avait pas encore de game plan et il avait une semaine pour s'adapter. L'autre s'était adapté pendant longtemps à un autre prototype, à un autre morphotype. Et là, il arrivait, il avait du mal. Donc, je ne sais pas te dire avec exactitude. J'essaie juste de te dire qu'il y a plein d'éléments dans la performance sportive, dans le modèle de performance sportive qui rend ce sport volatile, instable, versatile, qui le rend, voilà, c'est parce qu'il y a tous ces éléments. Aujourd'hui, quand on regarde le combat de donc Alexa Grasso versus
Valentina?
Valentina Shevchenko, on se rend bien compte que même si Valentina, à mon avis, ça c'est mon avis, elle a montré qu'elle était un poil au-dessus. Moi, c'est ma perception que j'ai. Même si sur le papier elle a perdu, moi je considère qu'elle était un poil au-dessus. Mais on a montré qu'il y a une jeune génération qui arrive avec beaucoup de fraîcheur et qu'aujourd'hui, si on posait des études avec un panel de combattants conséquents, on pourrait arriver à la corrélation que il y a un truc à voir avec la fraîcheur, la jeunesse, la fraîcheur. Il y a quelque chose qui fait que ceux qui sont plus frais arrivent souvent à prendre le dessus sur ceux qui sont moins frais. J'ai l'impression que Valentina, il y a quelque chose qui n'est pas aussi fluide que ça a souvent été. Et putain, elle s'est arrachée là. Elle a donné ce qu'elle pouvait. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que aujourd'hui, tu prends une fille comme Manon Fiorot, qui est un peu plus fraîche, sportivement parlant, je pense qu'elle pourrait mettre à mal Valentina Shevchenko.
Ok. Mais et par rapport à ça, justement, par rapport à ce côté fraîcheur, qu'est-ce qui fait aussi qu'il y ait de plus en plus d'exemples? En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'exemples de gars comme Jan Błachowicz, Glover Teixeira, Sean Strickland aujourd'hui, Charles Oliveira, où les gars sont là depuis 10 piges. De prime abord, on va pas se dire que c'est des mecs qui vont être champions, mais alors que le niveau aujourd'hui n'a jamais été aussi haut, ils arrivent à se frayer un chemin vers la ceinture. Et je veux dire, c'est même pas un titre qu'ils usurpent, c'est ils méritent leur titre, mais on les attendait pas à ce niveau-là.
Comprendre son jeu. Ça prend un certain temps. Ce n'est pas, le niveau est hétérogène. On ne sait jamais qui et à quel moment il va comprendre son jeu, mais le MMA a plusieurs étapes. Je considère qu'il y a un moment donné où tu pratiques le MMA et tu découvres le MMA et tu additionnes des éléments du MMA. Il y a un moment où ça devient un ensemble, mais tu combats pour gagner dans tous les domaines, tous les départements. Et il y a un moment donné où, sur la troisième étape, tu captes la logique interne du sport. Et quand tu as capté la logique interne du sport, tu es capable de gérer calmement et d'aller vers la victoire de manière stable, constant, longtemps. C'est qu'il y a des, celui que j'ai entendu parler de ça très récemment, c'était Taylor qui disait, j'ai l'impression que, mine de rien, je commence à comprendre le MMA. Donc, je savais, quand on est arrivé à la décision que je gagnais, j'étais bon au point. Ce n'est pas un hasard, c'est sérieux, c'est beaucoup, beaucoup d'années d'apprentissage, c'est beaucoup de maîtrise de ce qu'il fait, c'est la compréhension des règles, quels sont les points qui comptent. Quand Tchevchenko affronte Grasso, si tu comptes de manière les points et que tu te réfères aux critères qui disent qu'une frappe qui va faire une lacération, qui va ouvrir et donc qui est impactant, aura beaucoup plus d'impact que des frappes légères. Il y a des frappes légères, des frappes moyennes et des frappes très puissantes. Il y a des aminés au sol qui comptent et tout ça. Et dans le compteur de quelqu'un d'expérimenté, il sait voir tout ça. Et ce que j'essaie de dire, c'est que il y a des personnes qui vont prendre 2 ans pour comprendre leur style. Que dis-je? 2 mois. Il y a des gens qui ont pris 2 mois pour comprendre leur style. Et ça devient un succès, une success story. Boum, 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 ça marche. Et puis, il y a des gens qui prennent 2 ans pour comprendre ce qui se passe. Il y a des gens qui prennent 4 ans pour comprendre ce qui se passe. Je prends souvent l'exemple d'Ibrahim Mané, un jeune qui combat au Brave, qui arrive sur Arès. Il n'arrive pas à trouver son jeu. Il a beaucoup de doutes. Il s'installe chez nous à MMA Factory. Il comprend pas comment il doit gérer. Il a cette crainte d'adultère. Il sait que c'est son anti-jeu. C'est ce qui lui pose un problème. Et du coup, il ne sait pas exactement. Il n'est pas conscient qu'il a une appréhension, et que ça, du coup, ça vient annihiler ses compétences. Il ne le sait pas jusqu'à ce que il mette le doigt dessus, qu'il découvre la sécurité et se dit, attends, si le gars veut m'amener au sol, je peux le guillotiner. Si le gars me fait tomber, je peux reculer, coller mon dos sur la cage, je peux faire le wall walk et me relever. À partir de ce moment, si j'ai ces deux éléments, ben c'est bon. Je vais à la guerre, je l'allume et je m'en moque. Il me met une amène au sol, je mets la guillotine, je la modifie et puis tant pis. Et puis il va lâcher la guillotine parce qu'il sent qu'il est en danger et puis je repars. Ça a été son changement et ça a amené où il est aujourd'hui. Ça l'a amené au nombre de victoires qu'il a aujourd'hui. Il y a un moment donné dans la carrière d'un athlète où ça change. Et ça, c'est toujours dépendant de ça, beaucoup d'éléments, des rencontres qu'il fait, des coachs qu'il rencontre, de ses capacités cognitives aussi. Est-ce que ça connecte rapidement dans les synapses sur le fight IQ? Parce que c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'intelligence civile de la vie de tous les jours, c'est une intelligence particulière du combat. Et donc, on a des personnes qui arrivent, sont au bout d'un moment, on considère qu'on est nul, moyenne, et puis deviennent des champions, comme le cas de Sean Strickland. On a des personnes qui arrivent, on s'est dit, bon, Glover Teixeira, on s'est dit, bon, c'est mort, c'est fini, il va à la retraite, il n'aura pas la ceinture. Finalement, il arrive à comprendre son jeu et ne pas se perdre. Parce qu'il y a une période du combat, ceux qui combattent vont se retrouver dedans. Il y a une période où tu perds à la décision et tu te dis, j'arrête. J'arrête d'attendre la décision. J'arrête de faire le mec malin, je vais aller à la guerre. Tu vas à la guerre, tu gagnes un combat, tu es content. Ensuite, le prochain combat, tu vas à la guerre, tu perds sur un lucky punch et tu dis, bon, j'arrête ce jeu de hasard. J'arrête d'aller à la guerre. Et puis, tu vas perdre par soumission et tu dis, bon, je vais passer mon temps à faire du grappling. Je me calme un peu avec la boxe et tu mets toute l'énergie sur le grappling. Et là, tu fais deux, trois matchs, tu gagnes et puis tu perds un combat par KO et tu dis, bon, j'ai délaissé la boxe, il faut que je reparte là-bas. C'est très complexe à avoir. Et c'est pour ça que il faut être très vigilant en tant que coach de ne pas laisser les élèves aller sur des tendances manichéennes en mode, bon, je suis nul en boxe, il faut que je me bute en boxe et tout, je vais monter le niveau, je suis nul au sol, faut que je me bute, je vais monter au niveau. Faut trouver un équilibre pour que l'athlète reste assez complet et que tu ne l'amènes pas sur le curseur trop à gauche et que tu perdes à droite, tu vois.
Et on va dire au fil des années, parce que le MMA reste encore jeune, création de l'UFC 93, ça fait 30 ans aujourd'hui. Est-ce que ça, on va avoir de moins en moins d'exemples de ce type-là, des exemples de gars qui trouvent leur style tardivement, et aussi, ça c'est l'autre truc qui me frappe vraiment à l'UFC, c'est de voir que la moyenne d'âge des champions est de 32 ans. Enfin, tu sais, par rapport à tous les autres sports, à 32 ans, généralement, tu commences quand même un petit peu à baisser.
Parce que ça ne va pas beaucoup changer. Peut-être même on aura même une moyenne d'âge qui va aller à un moment donné vers 34 ans, 35 ans. Parce que déjà, les techniques aujourd'hui de prophylaxie, de prévention des blessures sont très avancées. La technologie sur la récupération pour les sports de combat, toutes les méthodes de récupération, à l'époque, on nous parlait à peine de la récupération. La récupération active en disant, bon, tu es en train de récupérer, mais tu fais une petite activité, un shadow boxing qui te met sur autour d'une VO2 max de 40-45%. Ça équivaut à quelqu'un qui est en train de faire un effort en ayant la possibilité d'avoir une conversation sans signe d'essoufflement. Ensuite, on est arrivé sur des méthodes où on va aller carrément faire des bains alternés pour essayer de repousser la stase veineuse. Tu vois, quand tu kicks beaucoup, il y a ce sang qui va aller s'accumuler vers les bas et va apporter un peu de la des veines qui vont se gorger de sang et donc des jambes lourdes, comme on dit, et donc tu vas aller chercher les bains alternés, chaud, froid, en commençant par le froid, en terminant par le froid pour aller accélérer ça. Et puis on a continué avec des méthodes de massage, des méthodes d'électrostimulation, des méthodes de enfin, il y a une pléiade de méthodes de récupération aujourd'hui, ça avance très rapidement et chaque fois on redécouvre des méthodes de la lumière rouge, de la machin qui vont tout le temps améliorer. Donc on peut dire que progressivement on aura des athlètes qui vont être beaucoup plus résistants à l'âge, qui vont plus rester dans le côté, qui auront plus l'anabolisme. Donc la fabrication des cellules qui vont se régénérer en opposition avec le catabolisme qui va détruire les cellules. C'est une guerre permanente qu'on a depuis qu'on est bébé jusqu'à aujourd'hui où mes poils blancs là, c'est le manque de pigmentation dû au fait que petit à petit mes cellules qui doivent reproduire la couleur de ma barbe ne reproduisent plus parce que je perds plus de cellules que j'en fabrique.
Mais il y a
Bah.
quelque chose, Fernand, on va dire, USADA friendly ou pas USADA friendly du tout, qui permet aujourd'hui de lutter contre ça. Parce que j'en parlais avec Rusty et je me disais, c'est quand même dingue de se dire, ça fait des années que les mecs se chargent et tout, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu de vrais progrès là-dessus. Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose, même si tu passes pas l'USADA, mais qui permet en vrai de lutter contre ça? Si toi aujourd'hui tu te dis, bon bah allez, c'est parti, bah là, enfin je sors de temps en temps cette stat-là, t'es plus jeune que Yoel Romero. Là, Fernand qui se dit, j'ai envie d'être comme Yoel Romero, est-ce que ce serait possible?
Non, je ne pense pas que de manière organique ce soit possible. En tout cas,
Ah mais même pas organique, hein, s'il y a un truc qui existe ou imaginons t'es au fin fond du Raisin dans une organisation assez sombre et c'est parti quoi.
bah, il y a 15 000 choses qui existent. Ah, là, tu es servi. Enfin, si tu as l'argent et que tu as les moyens,
Ok.
tu peux stopper le vieillissement de tout, quoi. Tu peux fabriquer de la matière de croissance qui va déjà te réduire toute blessure. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es blessé, tu vas refaire une injection qui va te ramener des cellules qui vont fabriquer de la matière, de la viande, de la structure et qui vont reconstruire ce qui est abîmé. Enfin, on sait que quand on boxe, Le gars qui prend des kicks dans les genoux, dans les mollets, dans les machins, il y a ce qu'on appelle la lipolyse, enfin non, la protéolyse, c'est de la dégradation de la protéine. Et donc du coup la protéolyse est accentuée avec les coups. C'est qu'au-delà du fait que quand je m'entraîne, j'use la structure du muscle et donc je l'abîme, les coups, les percussions sur le corps vont abîmer la structure du muscle et c'est de la dégradation de la protéine, dont la protéolyse. Et cette protéolyse, elle peut être retardée si tu as de l'hormone de croissance. Tu fais pousser ton corps, tu fais grandir de la matière de ton corps. Et donc, à chaque fois, ça, c'est pas un problème si tu veux aller dans les voies illégales ou dans les voies de dopage. Mais c'est fortement décommandé, c'est fortement déconseillé, et même pour ceux qui sont à la retraite, quoi. Tu te dis, bon, je ne combats plus, je me fais une santé, mais tu vas le payer parce qu'il y a toujours une conséquence, parce que
Ah oui, on n'en est toujours pas au point où tu peux ne pas avoir de conséquences par rapport à ça. Ça n'existe pas la technologie pour.
Mais non, ça se saurait. En tout cas, à mon niveau de connaissance aujourd'hui, certainement quelque part dans une cellule, dans le désert ou dans le 52e état des États-Unis, peut-être on est en train de faire des recherches dessus où il y a déjà la cure de jouvence. Mais là, à date là, moi, à mon niveau de connaissance, je ne connais pas un produit qui soit non nocif avec des conséquences, des effets secondaires. Et qui soit capable de te mettre en santé. Je suis pas au courant. C'est que tu prends, je vais dire, un anti-inflammatoire. SEM, un anti-inflammatoire, tu le prends, bah, tu auras des conséquences parce que ton estomac aura du mal à le digérer et que ça va t'abîmer l'estomac. Tu prends, un anti-inflammatoire avec de la cortisone, bah, tu ne vas pas pouvoir en prendre plusieurs fois, plusieurs doses. Tu en prends plusieurs fois, tu vas avoir les os qui vont se fragiliser, tu vas avoir de l'ostéoporose, une fragilisation, et à partir de là, il va s'en suivre d'autres conséquences et d'autres pathologies. Donc, de manière saine, de manière organique, je ne suis pas au courant aujourd'hui de ce qui se fait. Certainement, il y a des choses, mais moi, je suis pas encore au courant. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que on sait que avec le temps, les athlètes vont mieux faire de la prophylaxie, vont mieux. Il y a quelques années, quand on s'entraînait, on ne faisait pas tout ce qui était méthode d'optimisation de la récupération. Moi, je m'entraînais et puis je ne faisais. C'est très récent, hein, la mobilité. On parle de mobilité de plus en plus. Les crossfit ont commencé avec ça il y a une dizaine d'années. Mais en fait, c'est récent. Et aujourd'hui, quand je fais mon entraînement, dans mon programme d'entraînement que me fait mon cher élève et coach Facel Mathieu, très bon, je recommande, bah, il va mettre dessus de la prévention des blessures, voilà, de la prophylaxie et puis de la mobilité de façon à ce que de moins en moins, j'ai du mal que j'ai du mal à lasser à fermer mes lacets parce que quand je me lève du lit, je commence à sentir avec l'âge que c'est dur. Bah, lui, grâce à lui, je me sens mieux, je me sens un peu jeune, mais ça retarde juste et ça entretient les articulations, ça entretient les ligaments, ça entretient les muscles pour que tu ralentisses la fatalité qui est le vieillissement. C'est une fatalité, il n'y a pas encore de cure.
Non, mais je pensais aussi au tout ce qui est cellules souches aux États-Unis qui se développent. J'ai l'impression que c'est surtout de ce côté, on va dire, du monde où les gens en parlent. Mais est-ce que toi, par exemple, on va dire, ton analyse de ce truc-là, est-ce que c'est quelque chose de miracle ou pas?
C'est pas un miracle, c'est quelque chose de concret, c'est de la science pure. Ce sont des cellules souches, il y a pas, enfin, ça marche, c'est pas un secret. C'est que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Chine ou en Asie, partout, la cellule souche, ça marche. C'est que je prends des cellules et je vais venir greffer pour que je fabrique d'autres cellules à l'endroit où ça ne se fabrique plus. C'est que je suis un bébé, il y a des millions de cellules qui se fabriquent un peu plus que les quelques-unes qui perdent avec la desquamation, la perte de la peau, avec la perte des ongles, avec la perte des cheveux. Il y a il y a beaucoup de cellules qui se fabriquent. Et puis quand on approche la quarantaine, il y a un peu, ça vient s'équilibrer vers la trentaine, et puis vers la quarantaine, enfin, le déséquilibre se crée. C'est que le catabolisme prend le pas sur l'anabolisme. À partir de là, c'est la dégradation. Et donc, du coup, quand tu rajoutes des cellules souches qui peuvent fabriquer des cellules de manière artificielle de ce que le corps ne peut plus faire parce que le corps vieillissant n'a plus l'hormone de croissance, bah, à partir de là, tu as inversé la tendance et tu peux le faire. Ça peut marcher. Ça marche.
Ok. Et partant de tout ce qu'on a pu dire, pour toi, un athlète qui est dans son prime, ou si tu devais, là, comme ça, construire le mec, enfin l'athlète ultime, quel âge, et peut-être pas forcément d'âge, mais on va dire combien de combats de MMA, combien d'années d'expérience? Parce que c'est vrai qu'un Charles Oliveira ou les gars qui arrivent un petit peu tardivement, même les Jan Błachowicz, ils ont connu ces quelques guerres qui font que à l'instant T, ils sont bons, mais c'est un petit peu plus difficile de se projeter sur la suite.
Très compliqué de dire ça. Il faut être un gourou pour dire ce genre de truc. C'est très complexe. Alors que, moi, j'aime parler quand on a des études scientifiques, pas des études de moi fait dans ma petite salle à regarder deux, trois mecs et tout. Non, je parle d'études vraiment validées, homologuées, avec un vrai panel de personnes pour pouvoir dire, OK, on a pris 100 personnes ayant combattu en MMA. Et on va croiser les carrières pour déterminer à partir de quel moment elles ont débuté. Moi, je l'ai fait pour le Muay Thai. Quand je passais mon diplôme d'état supérieur sur le Muay Thai, je l'ai fait pour ça, d'aller chercher à l'époque tous les grands champions hollandais qu'on connaissait, tous les grands champions thaïlandais qu'on connaissait, tous les grands champions français qu'on connaissait. Je suis allé chercher faire vraiment une recherche pour comprendre à quel moment ils avaient commencé, combien de combats ils avaient et quelle était la fin de leur carrière. Essayer de voir s'il y avait un corollaire avec toutes ces personnes, si est-ce que on pouvait dire que en commençant à 10 ans, ils avaient commencé trop tôt et que du coup, il y avait une conséquence en fin de carrière. Est-ce que à 8 ans, c'était trop tard? Enfin, voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'on ait un gros laboratoire. Nous, on garde des données sur nos athlètes, on est.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tu dis, on prend des notes, les préparateurs physiques notent des choses, les responsables de la performance sportive notent des choses, et puis on fait aussi des collaborations avec des laboratoires pour prendre des notes, juste essayer de voir, mais on n'a pas un recul qui nous permette de dire de manière scientifique, carré, que le conseil que je donne, c'est de faire 20 combats avant 20 ans ou après. Enfin, déjà, ce serait biaisé parce que on sait aujourd'hui que la génétique n'est pas égale et juste avec tout le monde. Il n'y a pas une équité en génétique. On sait aujourd'hui que un mec comme Jordan Zebo, la veille de son combat ou 2 semaines avant, il mange un plateau de burger et puis il est quand même taillé comme dans du marbre. Et c'est véridique ce que je t'ai dit là. Aujourd'hui, là, il a tourné un spot publicitaire de Géladal et il s'est mis bien. Et pourtant, on est à 2 semaines de sa pesée, et il s'est mis bien. Mais parce que génétiquement, il a un avantage, voilà, il est dans la force de l'âge, il vient de fêter ses 23 ans, il est solide et tout, il n'a pas de problème, quoi. Les hormones de croissance, il en fabrique de manière naturelle, tout ça de manière endogène à puissance 1000. Et donc, ce serait dans une telle hétérogénéité, comment veux-tu aller savoir si le fait que Jérôme Le Banner ait commencé sa carrière et avant 20 ans, quand il arrive au Japon, il a déjà je sais pas moi, 100 combats, je dis n'importe quoi. Comment veux-tu dire que c'est le bon plan à suivre au lieu de faire comme Cyril Gane qui s'arrête, qui est aussi un poids lourd, mais qui lui a percé plus loin parce qu'il avait que 12 combats de kick au moment où il est arrivé au sommet pour changer de discipline sportive. Comment tu veux qu'on le sache? Comment tu veux qu'on mesure ça? C'est très compliqué parce qu'on sait très bien que la préparation physique, l'entraînement n'a non de sens que si c'est individualisé, si c'est personnalisé, si c'est singularisé. Donc, très complexe à aller savoir. Moi, je préfère ne pas me lancer en mode de sachant que je vais raconter des histoires où je suis sûr de moi. Je pense juste que petit à petit, on va apprendre beaucoup plus. Il y a aujourd'hui l'UFC qui fait, par exemple, une sacrée récolte de données. Ça fait une douzaine d'années déjà que je vais à l'UFC et ils récoltent des données incroyables. D'abord, ils avaient mis depuis la nuit de temps, dès que tu te pèses, tu arrives à la fight week une semaine avant, on prend ton poids et on va monitorer ton poids progressivement. Le jour où tu vas combattre, non, le jour de la pesée, évidemment, on a ton poids. Le lendemain, quand tu vas combattre, on prend ton poids quand tu arrives dans la salle d'attente pour entrer dans le bus pour aller combattre. Ce sont des données énormes. Imagine quand tu as fait 15 ans où tu as des données de 1000 combattants qui sont passés. Là, tu as des vraies statistiques parce que tu peux dire sur les combattants que j'ai eus, tous les combattants qui arrivaient avec comment dire, une récupération après la pesée de plus de 5 kilos, par exemple, aller à la victoire, tout ce qui était à moins de 3 kilos de récupérer sur le rebond du cycle le lendemain était à la défaite et donc tu peux faire des stats corrects. Là, on n'a pas encore ça. Et ensuite, ils ont mis des accéléromètres dans les gants et donc, du coup, ils ont récolté pas mal d'infos sur la vitesse des gants et ils peuvent aller aujourd'hui croiser et se dire, OK, je vais prendre tous les coups de poing qui ont mis des KO et je vais comparer la vitesse de chaque coup de poing puisque j'avais des accéléromètres dans chaque gant. Imagine le nombre de données qui vont débloquer bientôt. Donc, effectivement, le PFL a la Smart Cash qui donne des infos et qui collecte de la data. Mais quand l'UFC va sortir son site de Smart Cage avec tout ce qu'ils ont comme data aujourd'hui, ça va être une dinguerie. L'UFC donne avec Trifecta de la nourriture à ses combattants dès l'arrivée en fight week. Sauf que quand tu arrives, leur manager, je dois fournir le type d'aliments que aiment mes combattants. Est-ce qu'ils préfèrent le poisson? Est-ce qu'ils préfèrent la viande comme protéine? Est-ce qu'ils préfèrent le riz? Est-ce qu'ils préfèrent les patates douces comme protéines, comme féculents? Est-ce qu'ils préfèrent et ils vont croiser tout ça, ils vont le garder pendant une semaine, ils vont suivre à quelle vitesse les gars perdent le poids et à quelle vitesse ils récupèrent la masse après la pesée. Imagine quand tu vas leur poser la question 10 ans après de te donner les statistiques sur est-ce que la viande est la meilleure protéine pour le MMA ou est-ce que le poisson est la meilleure protéine pour le MMA? Voilà ce qu'on a envie. Voilà ce qui va nous servir pour la suite. Mais là, ce que toi et moi on fait là, de vouloir aller savoir si le fait que Adesanya ait trop de combats a fait qu'il perd les combats, c'est juste, on est juste toi et moi. En train de spéculer. Et la spéculation, j'aime pas.
Il n'aime pas ça. Mais non, mais ce que j'ai l'impression quand même, par contre, c'est que, au regard de ce qui se passe en MMA aujourd'hui et de ce que tu dis, en fait, ce qui est surtout important, c'est d'avoir un suivi personnalisé, en fait, pour chaque athlète, finalement. Et c'est la seule certitude qu'on a aujourd'hui.
C'est même pas un MMA. Le sport, de manière générale, tel que je l'ai appris, tu passes le premier, la base des bases. Je suis formateur. Sur tous les niveaux de diplôme du ministère de sport et tout. Et la base des bases, c'est d'enseigner aux gens, c'est là. Voilà quoi. Je n'ai rien contre ces salles-là qui commencent très tôt avec une préparation physique collective où tout le monde, il y a tout le monde qui va faire la même prépa, la même machin, c'est normal, ils font avec les moyens de bord. Vaut mieux ça que de ne rien faire. Il y a déjà du déplacement, il y a de l'activité physique, il y a quelque chose qu'on met en place. On va se louper ça et là, mais le cœur du projet n'est pas sur la performance sportive. Ces petites salles-là ont pour projet le bien-être, wellness, comment on appelle ça? La perte de poids, la prise de masse, la self-défense, que tu veux. Mais quand il s'agit de performance sportive, elle n'a de sens que si elle est individualisée, quel que soit le sport. Quel que soit le sport. On parle de football, les équipes du Qatar, il y a de cela 10 ans déjà en arrière, avaient sur leur équipement quelque chose qui pouvait quantifier, qu'on appelait HRV, Heart Rate Variation. Donc, c'est un peu un outil qui vient étudier la variabilité cardiaque. Entre deux battements de cœur, on a aujourd'hui, les coachs simples utilisent un cardiofréquencemètre pour avoir les BPM. Mais avec la variabilité cardiaque, tu es capable de prédire même l'état de forme de la personne parce qu'on a des études qui peuvent mettre en corrélation le type de fatigue, l'état de forme en fonction des variabilités qu'il y a entre chaque battement de cœur. Et donc ça, on les met dans des teams de football déjà à l'époque. Et donc avec ça, on peut aujourd'hui coacher et mettre des gens au repos. On peut aujourd'hui, en laissant la bague que les jeunes qui vont à l'UFC, vous voyez, tous les combattants de l'UFC français, si vous regardez bien, ils ont une bague qu'ils mettent quelque part sur l'un de leurs doigts, peu importe. Cette bague-là a des capteurs qui va donner des paramètres constamment. Pour capter à quel moment on doit conseiller à l'athlète de dormir, de se reposer, et qui va prendre pas mal d'informations. Ces trucs-là, on en a besoin. On peut aujourd'hui aller avec ça étudier, aller regarder au fond et prédire ce qui va se passer. Quel que soit le sport, ça permet d'individualiser au final. Ça n'a pas de sens de faire la préparation pour deux athlètes de manière identique, parce que il y a des éléments qui sont pour l'effort. Les éléments qu'on utilise en général, c'est le type d'effort, l'intensité de l'effort, la nature de la récupération, le temps de récupération. Tous ces éléments-là, on va les mettre en place en fonction de l'individu qu'on a devant nous. Qu'est-ce qu'il ressent? Comment il est fatigué? Quel est son BPM? Quelle est son amplitude cardiaque? Quelle est sa fréquence cardiaque? C'est tous ces éléments corroborés avec son âge, corroborés avec son poids, sa taille, qui vont permettre de vraiment planifier et étudier et préparer le gars. Et au-delà de ça, là, je parle que de ce qui est de la préparation physique, même sur l'individualisation pure de l'enseignement, ce qu'on appelle les patterns moteurs, ce qu'on appelle les préférentiels. Vous êtes en stature debout, un gars comme Dustin Poirier, le mec est là face à vous et il va défier la nature alors qu'on demande au gars pour son transfert de poids d'être en garde normal, lui va être square face à vous avec ses deux jambes face à vous, mais il va dégager une telle puissance et tout alors que quelle que soit la position de ses pieds, il est capable de dégager une grosse puissance. Ça, ce n'est propre qu'à lui et à quelques individus. Faut pas prendre cette méthode-là, essayer de la reproduire sur tout le monde, ça ne marchera pas forcément. J'en parlais avec Manga Benjamin, le professeur de lutte au MMA Factory. On parlait de combien de fois ça peut changer l'attitude. Vous savez, la jambe d'appel. Quand je vais faire une amenée au sol, je change de niveau et des fois, il y a ce qu'on appelle le déplacement genou-pied. Donc, je place mon genou d'appel, ensuite, je place mon pied. Quand un coach arrive, il est un jeune coach, il impose la jambe d'appel. Il dit, je veux que tu ailles au sol avec ton genou gauche. En faisant ça, le jeune va imiter, il va suivre parce qu'il a l'audition, il a le visuel et il va essayer de faire. Mais le kinesthésique n'est pas connecté. Le côté kinesthésique n'est pas connecté parce que ça ne marche pas avec son préférentiel. en préférentiel, s'il était tout seul et qu'il déclenchait une amenée au sol, il aurait mis le genou droit en premier pour faire son appel. Mais là, tu lui changes son moteur, tu lui changes ses préférentiels, tu lui changes son pattern moteur. Et c'est risqué. Tu vas certes avoir quelqu'un qui est capable de faire ta technique, mais tu vas avoir une technique amoindrie, une efficacité, un timing moindre que si tu l'avais laissé faire sa technique. J'avais un professeur à l'INSEP, Raph Hippolyte, qui disait la technique du sport ne s'enseigne pas, elle se libère. Donne la technique de manière globale, laisse l'élève libérer la technique de son soi, de lui-même, de la libérer et qu'elle coule, parce que à force de trop la décortiquer, la technique, tu vas à certains passages donner des blocages, parce que tu vas donner des préférentiels qui sont tes préférentiels ou les préférentiels d'un autre athlète de la salle, et ce ne sera pas les préférentiels de ton athlète. Et très souvent, il m'arrive que lorsque je vais donner des pattes d'ours, une leçon de boxe, que je demande à l'athlète comment tu te sens. Là, je t'ai dit gauche, droite, crochet. Qu'est-ce que tu aurais préféré? Enfin, je dis gauche, droite, préféré. Je dis gauche, droite, mets-moi un check hook. Et le gars, il fait gauche, droite, il place uppercut. Il fait gauche, droite, il se trompe à courir. Il dit, ah, désolé, coach. Non, c'est un préférentiel. Ne me dis pas désolé. Reste dessus. C'est ce que tu vas sortir le jour de combat. C'est ce qui va naturellement venir. Restons câblés dessus. Ça va t'aider à progresser.
Très intéressant, Fernand. Et donc là, pour revenir à nos moutons, donc à l'UFC, plus ancien champion actuel, c'est Alexander Volkanovski, champion depuis 2021. Que ce soit Tchachenko, que ce soit Adesanya, on ne les voyait pas tomber. Pourtant, ils se sont inclinés. Là, est-ce que on se dit que c'est le prochain finalement qui va tomber, même si vraiment on a l'impression qu'il est à 1-2 niveaux au-dessus de la concurrence.
Il est largement au-dessus. Mais il va fatalement tomber un jour. Ça, c'est une certitude. Bon, enfin, à moins qu'il fasse comme Khabib et qu'il prenne la retraite avant. Mais tu restes, le temps aura raison de toi. L'évolution sportive aura raison de toi. L'évolution de la préparation physique et de la préparation mentale auront raison de toi. Tu peux pas rester indéfiniment à ton prime. Tu peux t'arracher avant que ton prime ne s'arrache.
Fernand, dans ce cas-là, John Jones, comment il fait? Comment il fait, John Jones? Parce que sur le papier, tu vas me dire, hein, enfin, clairement, je raconte sûrement n'importe quoi. On a l'impression qu'il y a plein de choses qu'il fait qu'il ne faut pas faire. On est au courant de toutes ces phrases, tous ces problèmes extra-sportifs. Pourtant, il a une longévité. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a une telle longévité dans l'histoire du MMA. Il a battu plusieurs générations de combattants dans différentes catégories. Qu'est-ce qui fait qu'un gars comme ça peut être toujours là, à l'instant T? Et est-ce que toi, tu mets une petite pièce dans le côté? Bah, c'est vrai que là où tous les gars, que ce soit Volkanovski, que ce soit Adesanya, combattent régulièrement, l'avantage de Joe Jones, c'est qu'en ayant des pauses aussi longues, peut-être que ça aide le corps, ça aide aussi l'esprit. Et est-ce que toi, soit t'aurais aimé avoir un gars comme ça. Tu sais, tu vois, gérer quelqu'un où tu sais que bah il a un combat tous les 2 ans, et quelque chose comme ça, que ce soit des pauses souhaitées ou subies, hein, bien évidemment.
Moi, je suis surpris que tu sois aussi biased de John Jones.
Ok, bah quand même.
Mais c'est ça qui est surprenant, c'est que je me disais que tu as du recul et que tu peux te... Il y a des gens qui s'enflamment très rapidement. Moi, je pensais que, comme d'habitude, tu aurais eu... Enfin, il faut du recul.
Bah, tu as eu tout. Là quand même, il a jamais perdu, quoi.
Non, je sais pas qu'il est perdu, c'est que tu as vu John Jones en déclin quand même.
On l'a vu en déclin, mais par rapport à ça, que ce soit John Jones, que ce soit les Adesanya, que ce soit, je pense beaucoup, et tu le dis assez souvent, que styles make fight, et que ça dépend vraiment aussi de quelles sont les conditions pour faire les derniers combats de John Jones. En vrai, c'était des combats, je vais pas dire des combats pour faire des combats, mais tu vois ce que je veux dire, il y avait pas de hype, tout le monde s'en foutait.
C'est pas ça, ça a rien à voir. C'est qu'il faut arrêter avec la théorie de tout le monde s'en foutait. C'est que ça veut, tout le monde peut s'en foutre, mais le mec qui veut le combat, il combat.
Oui.
Le nombre de combats dont on s'en fout.
Ouais.
Le mec, il veut le combat et combat.
Mais Fernand, est-ce que t'es d'accord que John Jones, tous les combats qu'il y avait, ou même toi, t'étais hypé, ou tu dis, ou soit hypé, ou soit le combat contre Cyril, en mode, c'est les combats qui font un peu ton héritage, c'est là où il nous sort des performances dingo.
Mais c'est là où je suis, j'ai dit encore que, don't get me wrong, voici ce que je dis. John Jones est un colt. Il n'y a rien à dire, c'est le meilleur. Mais je pense que c'est trop tôt en fait. Je pense que tous les week-ends, si tu allais regarder les grosses compétitions des Eddie Bravo Invitational, les Quintet, les machins, tu verrais tous les week-ends des personnes d'un niveau de sol ultra bon se faire soumettre en 20 secondes. Ce que je dis, c'est que je suis un grand fan de Jones. Calme-toi. Hein. C'est que j'entends les commentaires d'ici dire ouais, il oublie ce que John Jones a fait à son gars, naninana. C'est pas la question. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Je vous dis que de manière objective, est-ce que toi, tu as eu tes réponses si John Jones était vraiment revenu sur le combat de Cyril?
Alors, oui et non.
Non, c'est vraiment de manière honnête, objectif.
De manière honnête, oui et non, parce que ça n'a pas duré suffisamment longtemps, mais oui, parce que on a vu un mec qui était toujours en place mentalement, tu vois. Et honnêtement, avant le combat, tu vois, le fait de se dire, enfin, tu te retrouves quand même contre un mec comme Cyril, qui pèse 115 kilos, qui a un physique machin, bah, en fait, il était là, Jones, tu vois. Et
comment tu as su ça qu'il était là?
Dès le début, il a imposé une pression, j'ai trouvé, je sais pas si toi t'as ressenti ça, j'étais en mode, ok.
Tu vois, toi, ça te suffit pour déterminer que le gars est là.
Bah, parce qu'en fait, t'as pas ce côté, comme ce qu'il peut y avoir, tu vois, sur les combats, Khabib contre tous les gars qu'il a affrontés ou presque, où, à partir du moment où c'est le début du combat, c'est, le corps est là, mais l'esprit, ce que les mecs apportent, a disparu. Là, John Jones, il y avait toujours le John Jones d'avant. Et je m'étais dit, peut-être qu'en affrontant un mec comme Cyril, de son côté, tu vois, on allait avoir un gars différent, parce que tu te dis, bon bah là, t'as pas le droit à l'erreur, et t'affrontes un gars que t'as jamais... Enfin, un physique que t'as jamais affronté. Quand je dis affronté, on sait qu'il s'est entraîné avec Arlovski, avec Alistair O'Ferrim, mais en combat à l'UFC, main event d'un pay-per-view. Toi, non?
Non, ce que je t'ai dit, c'est que je n'ai pas appris grand-chose, c'était trop court.
Non, mais dans le sens, parce que, t'as le droit de nous dire, là, déjà, contre Stipe Miocic, les gars, genre, calmez-vous un peu, parce qu'on peut, peut-être.
Non, il n'y a rien qui va se passer. Stipe n'a rien à faire. C'est pas la question. Ce que je t'ai dit, c'est que, moi, en tant que fan, j'ai encore envie de voir. Vraiment. C'est de dire, je n'ai pas envie de voir s'il est le meilleur. C'est indiscutable, il est le meilleur. J'ai envie de voir s'il est encore à son prime, comme tu dis. Tu dis, ta question c'était, comment John Jones fait pour toujours être à son prime en battant des générations différentes? Et je te dis, bon, là tu fais comme un tuto, tu vas trop vite en besoin. Je sais pas, enfin... C'est pas le combat a duré deux rounds. C'est pas où il y a eu phase de lutte, phase de ground and pound, phase de striking, phase. Non, il y a eu lutte, pression sur les cervicales, guillotine bien faite, impeccable, rien à faire. Est-ce que tu ne te dis pas, peut-être que celui qui était en dessous, qui a subi les soumissions, était juste très faible? Peut-être que c'est aussi la fortune, mine de rien, ça existe un peu, enfin, le bon placement, le bon endroit, le bon truc et tout. Peut-être que ça se joue à pas grand-chose, finalement, ces bails-là. Et ce que j'ai dit, c'est que pour aller dire qu'un mec traverse toutes les générations, vous, les médias, quand on était à moins... quelques jours du combat, vous étiez en train de dire comment les trois derniers combats de Jones n'étaient pas intéressants. et qu'on a besoin de tester, qu'on va voir. Il gagne le combat. Il roule sur Cyril. Ça devient d'une évidence que c'est évident qu'il n'a jamais changé. Il a toujours été à son prime et continue à battre des générations et des générations. Indépendamment du combat qui concerne mon gars, j'ai envie de prendre de l'objectivité et de me dire, si ça arrivait à n'importe qui, Chimaev revient. Non, Ousmane Camaro, il revient là. Il attrape un mec, il veut faire un slam, le mec est KO, fin du combat en 30 secondes. Avant de t'enflammer et dire, ah, le Ousmane qui était chaud est revenu mentalement, il est solide, tu as envie de voir ça une fois, deux fois, trois fois, t'as envie de... c'est ce que je dis. Toi, tu es satisfait, t'as assez de recul là? C'est ma question.
En vrai, je pense que oui. On verra pour la suite. Mais le truc, c'est que John Jones, c'est que ça s'est passé. Comment? Quand un truc se répète plusieurs fois, j'ai tendance à me dire. Enfin, tu sais, c'est un peu comme Francis où j'y pensais il y a pas longtemps, je sais pas pourquoi. Où en gros, tu te dis pareil. Enfin, sur le papier, je pense que ce soit toi, moi, même tout le monde, tu te dis c'est quand même dingue que le gars ait réussi à rouler sur tout le monde comme ça. Mais.
Non, calme-toi, frère. Derrick Lewis.
Oui, mais sauf que Derrick Lewis, alors, Derrick Lewis, il a pas fait ce que Francis a fait.
C'est-à-dire?
Ah bah, c'est-à-dire que bah, Derrick Lewis, Cyril Gane, par exemple, ou Derrick Lewis contre bah, la mauvaise passe qu'il a traversée. Dans le sens, quand je dis ça, c'est que...
Attends, c'est pas de ça, on est en train de parler sur le fait que il a roulé sur tout le monde.
Oui.
Je t'ai dit...
Ah oui, le combat d'Derrick Lewis, mais oui, mais on sait que le combat d'Derrick Lewis, en plus t'étais aux premières loges pour ce combat-là, c'était pas vraiment, c'est pas le Francis qu'il y avait.
Du coup, t'as mort, balle au centre, explique-moi.
Vas-y.
Comment tu fais ça? Comment est-ce que tu dis sur l'un des combats, ce n'était pas le Francis, ce n'était pas lui, sur l'autre combat...
Ah non, mais c'est que pour
parce
moi...
Parce que si ce n'était pas lui, tu retires la gloire et la performance à Derrick Lewis. Si tu dis que ce n'était pas lui, est-ce que tu veux dire que Cyril, ce n'était pas lui?
Eh ben justement, pour moi, l'avenir va le décider. Et en fait, c'est pour ça que du côté de John Jones, en fait, là où je lui mets toute la gloire, c'est que ça s'est... Il y a eu ça à maintes et maintes reprises. Pour moi, Cyril contre John Jones, c'est exactement ce qui s'est passé Francis contre Miocic. Ou aujourd'hui, le combat Francis contre Miocic numéro 1, il n'y a pas grand monde qui en parle. Pourquoi? Parce que depuis, il a évolué, il y a eu la revanche et on a vu ce qui se passe quand Francis, il a sa tête au bon endroit. Cyril, aujourd'hui, contre John Jones, il ne peut pas faire un poste, ce qu'il veut. Il y a John Jones partout. Imaginons là, Cyril, donc là, il s'est occupé de Spivak. Il s'occupe de Thomas Spinal, même si on a bien compris que c'était pas dans les plans, mais bon. Il s'occupe de Thomas Spinal, il s'occupe de Pavlovitch, et il a le...
Ça, c'est inévitable. Ils vont se rencontrer.
Non, mais dans cet ordre-là. Dans cet ordre-là. Ensuite, okay. Il a le combat pour le titre. Imaginons, John Jones est toujours là. Revanche contre John Jones. Et là, boum, John Jones qui essaye de l'amener au sol. Ta-ta-ta. Non, il n'y a pas de problème. Cyril, il explose. Il pourra dire, tu vois, tout ce qu'aujourd'hui,
non,
Cyril...
oublions ce qu'il pourra dire.
Ah non,
vas-y. Est-ce que c'est la preuve que ce n'était pas lui le jour de leur combat?
Eh ben
c'est
oui,
ça la question.
Oui, mais sauf que c'est la preuve que c'est pas lui, mais surtout
Est-ce que ça ne peut pas juste être qu'il était faible, n'était pas bon ce jour-là?
100%, mais surtout que ça... Et surtout qu'en fait, ça apportera du poids au... Aujourd'hui, Cyril, il dit, je sais pas ce qui s'est passé, c'était pas moi le soir du combat-là. Aujourd'hui, malheureusement, et c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est que... Et même toi, je pense que tu dois vivre ça, c'est... Comme il n'y a pas eu le contre-exemple contre John Jones, tu peux pas dire que... Mais s'il y a une revanche et que Cyril s'occupe de John Jones, bah, t'es en mode... Voilà, comme quand il y avait la revanche contre Miocic, où t'étais en mode, Francis, les gars, vous inquiétez pas, il va lui rouler dessus. Il lui a effectivement roulé dessus et t'étais en mode, bah voilà. Enfin, ce qui s'est passé UFC 220 à Boston, bah c'était pas Francis. Et là, vous avez vu la revanche, c'était effectivement pas Francis. Voilà.
Donc, tu veux dire que... comme il n'y a pas encore eu la revanche,
voilà.
Francis et Derrick Lewis...
Oui.
Francis ne peut pas tweeter et dire que ce n'était pas moi.
Mais non, mais dans le sens où c'était dans la même lignée, imaginons, tu vois. Et là, tu comprends, tu fais exprès. Mais si par exemple, contre Cyril, ça s'était mal passé contre Spivak, moi, j'aurais pas été en mode Spivak est plus fort que Cyril. Parce que pour moi, intrinsèquement, tu te poses 5 secondes. Et même toi, mais non, ça, si ça s'était mal passé à l'UFC Paris, tu t'aurais pas pu dire, bah là, Spivak. Enfin, le jour du combat, oui, Spivak aurait été meilleur que Cyril. Mais on ne peut pas dire que les gars se rencontrent 10 fois, il y a 10 fois Spivak qui bat Cyril. C'est ce que je veux dire. Et c'est pour ça que moi, Jon Jones, où il m'impressionne, c'est qu'il n'y a aucune fois dans la cage, quand il y a les gros combats, je veux dire, il fait sa performance pété contre Robin Saint-Preux, le combat est enfin, dégueulasse, il s'impose par décision unanime, il combat revanche contre Daniel Cormier, il le met KO, tu vois. Enfin, c'est que des trucs comme ça avec lui. Combat revanche contre Gustafsson. Le mec qui nous saoule tous à dire j'ai envie d'avoir Gustafsson et tout. Alors Gustafsson, bon bah voilà, tu sais, le combat était chaud, mais. Et qu'est-ce qu'il fait? Et Gustafsson n'existe pas dans leur combat revanche. C'est là où moi il m'impressionne vraiment. Et ça n'a. Si c'était juste une fois, j'aurais été ok, bénéfice du doute. Mais là, là où il est fort, c'est qu'à chaque fois où ça compte vraiment et qu'on est en mode bon, là mon pote, faut pas que tu te rates, bah, effectivement, il ne se rate pas, tu vois. C'est pour ça. Voilà.
C'est clair, c'est bon. Écoute, écoute ouais, je ouais, la fin, je suis d'accord avec toi. Je suis juste souvent impressionné par le changement de veste et de vitesse que les gens ont sur le fait de goat, pas goat, parce que ça se passe vite fait et tout. Non. J'aime bien l'idée de me dire que faut pas juste prendre un résultat comme ça vite fait et en déduire que voilà quoi, le mec est venu, il a mis une patate et tu dis tu vois, prends le cas de ce mec-là, comment il s'appelle, ce gars qui s'entraîne maintenant avec SBG, le Brésilien
Johnny Walker.
Johnny Walker. Bah Johnny, il traverse une mauvaise passe. Il vient, il pète un KO, et toi, tu t'enflammes, tu dis, oh, bah voilà, je vous avais dit, il n'était pas bien, là, c'est bon, il est revenu, c'est un tueur, machin. Et puis, bah, il refait un autre combat, bah, il s'est fait éclater encore, et du coup, faut être prudent quand même, tu vois. Je ne dis pas que c'est le cas de Jon Jones, je dis simplement que, Jon Jones, son retour chez les poids lourds, n'a pas encore existé parce que c'était ultra rapide et que enfin t'as envie de voir quoi, t'as envie de voir quand il tombe sur un mec et que ça se passe bien, tu vois, genre qu'ils peuvent échanger, tu peux voir tous les secteurs, tu peux voir les trucs, et je trouvais que c'était trop tôt de le prendre pour exemple du gars qui est immortel, quoi.
Mais d'ailleurs, toi, je crois que t'as pas eu de cas comme ça, mais est-ce que les exemples des Brock Lesnar, des Georges St-Pierre, des Jon Jones, j'ai pas d'autres exemples en tête, est-ce que c'est préférable pour un athlète d'être sur un rythme comme ça où, enfin, tu peux avoir une pause de 2 ans et toi, en tant que coach, t'as le temps de t'occuper du gars sans échéance, sans rien du tout, ou c'est mieux pour un athlète à très 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 haut niveau d'avoir de l'activité, donc quand je dis activité, combattre 2 ou 3 fois par an.
Je pense que ça, c'est. Moi, j'aime encore quand on parle avec des statistiques. Et je pense qu'il y a plus de statistiques qui sont en faveur de ceux qui ont de l'activité. On est d'accord aujourd'hui que plus on est actif, plus on a des chances de gagner et d'aller rapidement vers un round parfait pour aller à la ceinture, et que moins on a d'activité. C'est que si on devait compter le nombre de mecs qui ont fait une carrière aussi espacée et qui sont devenus champions ou qui ont maintenu la ceinture longtemps, on tomberait, ce serait, voilà quoi, c'est rare. Donc non, pour moi, et même moi, je prends du plaisir à avoir un suivi, de pouvoir être souvent actif. Quand je parle d'activité, je ne dis pas combattre tous les mois, mais je veux dire avoir un bon d'entraînement de 2 mois et demi, 3 mois, c'est déjà correct et tout. Rester sans activité, il y a mine de rien, le désentraînement, il va très vite, hein. C'est que le désentraînement, on doit tout recommencer à zéro, ça va vite. On sait aujourd'hui que En l'espace de 2 semaines, un sportif de haut niveau peut perdre jusqu'à 50% de son VO2 max. Ça fait beaucoup, tu vois. Donc, faut faire attention.
Eh bien, Fernand, ce sera, je pense, le mot de la fin. J'ai juste une dernière petite, allez, ultime bafouille. Est-ce que pour toi, enfin pour moi peut-être, hein, la vraie grosse révolution qu'on aura dans le MMA, ce sera les Jeux Olympiques 2028, avec un véritable avènement du MMA amateur, ou pour toi, pas t'y crois pas, mais on sera toujours dans quelque chose un peu similaire à la boxe, où tu penses qu'on peut avoir vraiment quelque chose où là, c'est acté mondialement, des, je sais pas moi, 18 piges, 20 ans. T'as quelque chose qui se développe pour toi?
Je pense que c'est déjà fait. Hein. Je pense que le MMA ne sera plus pareil et qu'on est en direction vers le mouvement olympique. Ça se passe plutôt bien. On a toutes les cases qui sont cochées pour aller chercher le mouvement olympique et apparaître au moins comme une discipline de démonstration. Je ne pense pas que ça va changer un truc de malade drastiquement, puisqu'aujourd'hui, les IMAF se font déjà. Les IMAF, ce sont des compétitions amateurs des MMA. C'est encore où il y a plus de 180 pays représentés. Donc, ça fait un certain nombre de pays quand même pour un jeu. Et donc, du coup, je pense qu'au JO.
Quand je disais ça, c'était quand on regarde les IMAF, il y a beaucoup, c'est surtout les pays de l'Est qui cartonnent. 2028, je pense pas, je pense pas que les Américains ils vont dire on va les laisser prendre toutes les ceintures, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que ça peut changer pas mal de choses, tu vois.
Effectivement, ça, vu de ce point de vue, je suis persuadé que la compétition appelle la pratique de masse, quoi. À partir du moment où une nation comme la France sait qu'elle peut aller choper des médailles aux Jeux Olympiques, bah, t'inquiète pas qu'on va avoir des subventions très rapidement pour entraîner des jeunes, hein. Donc, oui, t'as raison. T'as raison qu'on va avoir, non, là-dessus, t'as raison. Mais ça passe par le développement déjà à partir de maintenant de nos champions et qu'on aille chercher encore plus de combattants à l'UFC, plus de combattants au PFL, plus de combattants au Bellator s'il existe encore. Et puis derrière, qu'on aille chercher des ceintures pour nous. J'espère que l'UFC ne va pas faire ce qu'ils essayent de faire, d'esquiver Manon pour mettre Blanchfield.
J'ai très peur, j'ai parce qu'elle était aux premières loges en plus.
Ouais, c'est. Alors, comment dire, businessment parlant, je comprends. Elle a plus de hype. Elle est,
Américaine.
voilà, américaine et au-delà de ça, récemment, elle a été très dominante, notamment sur Jessica Andrade, où elle a fait un combat quand même décisif. Et puis elle a marché aussi sur Boulette, l'anglaise, je crois. Et puis du côté de Manon, ça a été des bonnes décisions, de la domination. Mais ils veulent faire une narration que faut pas qu'on l'accepte rapidement. Faut que Manon continue à se battre et que son manager pousse à mort pour qu'elle le fasse, quoi. Qu'on nous donne pas une narration où parce que je les vois venir en faisant une espèce de Grasso contre Erin Barfield, ensuite Manon contre Valentina Shevchenko, c'est pas le bon bail, ça. Là, il faudrait pousser Manon Grasso, et ensuite vainqueur de ça va prendre le vainqueur, la winneuse entre Erin Blachfield et Valentina Shevchenko. Et puis la réalité, c'est que Shevchenko, elle revient dans 6 mois, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être plutôt dans 4 mois, parce que elle a eu une fracture du pouce, ça va prendre du temps, elle a été un peu abîmée. Ouais, pour notre développement, ce serait bien que Manon soit la prochaine pour la ceinture.
Let's go, Manon Furo, et pourquoi pas en France. En tout cas, on croise les doigts. Fernand, comme chaque semaine, merci beaucoup. Semaine prochaine sera preview PFL Paris. Sans doute, est-ce que t'es surpris, Fernand? J'ai l'impression que c'est le combat franco-français le plus attendu all time dans l'histoire du MMA. Ah,
Non.
non?
Non? Mais
Je suis
c'est dur, hein.
Je suis à ouf. Attends, attends, j'ai oublié quoi?
Bah, Abdul Karamoussou, c'était lourd, hein.
C'était lourd, mais après, Peut-être c'est là qu'on voit la différence générationnelle entre nous deux, mais...
Oh, c'est méchant, ça.
Non, mais là, j'ai l'impression, en tout cas, que tous les nouveaux qui découvrent le MMA sont au taquet sur cet event. Voilà.
Oui. Voilà. Même les anciens, hein, c'est que tout le monde qui... Enfin, non, je pense que c'est un très beau combat. C'est un combat très attendu. Et donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comparer avec... on a fait quand même des bons matchs franco-français. Hein. C'est juste que ça passe vite et qu'on oublie, mais il y a eu des bons matchs franco-français.
T'as vu cette culture de l'instant. Et en parlant de culture de l'instant, juste Abdoul. Alors, j'ai vu sa story, contrat signé. Il affronte qui, ce monsieur Abdoul Abdourahimov?
Tu le sauras demain.
Ah, d'accord. Bon, on le saura demain tranquillement. Pas de soucis, monsieur, merci beaucoup.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.